Oui, on se la pète vraiment aujourd'hui. Oula, je sais pas d'où ça vient. Enfin bon, on va y arriver, voilà. Vous êtes sur FMR 89.1 MHz. Nous sommes le samedi 4 novembre 2006. Et que va-t-on vous fourrer dans les oreilles aujourd'hui? Maintenant, c'est le supplément week-end sur Actu BD Télé Baston, suivi de le ça c'est du sport à 13h, les résultats en direct des stades, des vestiaires et de l'infirmerie, et ensuite à 15h du mix avec le potager, 16h scène transmission, 17h Big Bang, 18h vie d'ordure, 19h on est chez nous, 20h la STTO expérience, 21h30 stay tuned. Et on a vraiment de gros soucis techniques, je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais bon, on va essayer de les régler, enfin comme d'habitude quoi. Vous savez où vous êtes, c'est pas une surprise. Et oui, on est la poubelle des radios et on ne vole pas notre réputation.
FMR. FMR, la French Independent Radio Libre since 1981.
Ça pète un peu, ça crache le son aujourd'hui, je ne sais pas d'où ça vient, mais oui, ben voilà, ben la table, est, je crois qu'elle est un peu morte. On va se démerder avec, voulez-vous, comme d'habitude. Bon, enfin, bon, ceci dit, c'est une spéciale Halloween, donc la table, elle est un peu morte vivante, c'est normal. On va se démerder avec, et puis voilà.
En fait, c'était exprès.
Ah, tu croyais que c'était exprès? Non, quand même, je suis bon, mais pas à ce point, quoi, faut pas exagérer. Je pense qu'on va mettre un truc un peu plus soft.
Oui, que tu as déjà mis d'ailleurs. En plus, c'était la dernière fois, c'était avec Sabrina en plus.
Non, c'est vrai?
Si, si.
Ça?
Ouais.
Non, Ruinard? Nanny Schneiss?
Ah oui.
Oh merde!
I don't know.
Ah oh bah voilà, le problème technique a été diagnostiqué, isolé et verrouillé, neutralisé. On coupe tout, c'est pas la peine, l'ordi, pas pour aujourd'hui. Et je manque à mon plus élémentaire devoir de courtoisie, à savoir de dire bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Bonjour du sport.
Bonjour.
Et je crois que tu as changé de micro, le verre est mort aussi. Oh, on a vraiment pas de bol.
Et moi, je compote du beurre.
Bonjour Sabrina. Tu vas bien?
Bonjour Xavier.
Ouais. Non, mais ça va quoi? Mais c'est juste parce qu'on a que des problèmes du sport récé pour voir.
Oui, l'émission est bien partie là. Parce
non,
que...
c'est pas la peine. C'est pas la peine. Pas sur l'orange, merci. Décidément, c'est vraiment. Oui? Ah, hein? Tu disais, pardon? Ah, d'accord, quoi? C'est ta tranche que j'ai éteinte. Tu disais? Je vais y arriver.
Je disais. Est-ce que ça marche là?
Oui.
Je disais l'émission est super bien partie.
Oui.
Je disais parce qu'il y a Sabrina qui écrit sa chronique en ce moment pour tout à l'heure, du sport qui déballe ses CD avec le blister encore intact. Toi, tu es en train de avoir des démêlés avec la table et moi je la crève. Donc ça va être super bien cette émission.
D'accord, ok, je commence de suite par mon édito. Il y a des matins où quand on allume la télé, on n'a pas le temps de zapper de chaîne qu'on est déjà explosé de rire. Attention, c'est un programme absolument culte. Et d'ailleurs, ça est tellement culte que j'ai eu le jus de pamplemousse qui est sorti par le nez et ça m'a permis de le nettoyer les sinus en mettant partout sur le téléviseur et devant. Bref, c'était ignoble. Et ceci alors que j'allais regarder la rubrique Echos de Euronews vendredi matin. Tout ça parce que la veille, j'étais sur MTV. Pardon, MTV2, je précise. J'ai même pas voulu regarder les European MTV Awards la veille, vu que MTV France prend ses spectateurs pour les débiles profonds, totalement illettrés, avec des guests qui font un commentaire digne de l'Eurovision, un comble. Alors que l'ordi était invité, m'en fous, j'attends les rediffs sur les chaînes anglaises. Or donc, oui, je reprends, après avoir digressé sur la bêtise profonde des diffuseurs français qui se refusent absolument à proposer les programmes en VO et les séries dans l'ordre, ce qui n'arrangera absolument pas le niveau parfaitement médiocre d'une bonne tranche de mes concitoyens en anglais, Thomas ne te sent pas visé, mais quand même fait un effort, retirer sous-titres sur la piste originale, c'est t'aidera professionnellement, sauf si c'est encore un film de Hong Kong.
Oui, ça va.
Or donc, passer un ovni, un truc incroyable, un bout de film amateur, comme ça, paf, à 7h30 du matin, Mighty Moshi Emo Rangers. Formidablement bien réalisé, vu les moyens, bourré d'humour, danse et culte dès sa première vision. Et d'un coup, je me suis souvenu pourquoi je m'habille en noir, là je suis intégralement en noir, alors que je n'ai jamais été très longtemps gothique. Pour des raisons lessivières, oui, vous faites pas du blanc et du noir, du blanc et de la couleur, vous faites de la couleur et du noir, c'est plus rapide, mais aussi par sainte horreur des fringues blanches et flashy. Arrêtez de rigoler derrière. Pour cela, il faut parler d'un immense traumatisme qui m'a frappé en 2001 et dont l'inspection du travail n'en a jamais entendu oui dire. Cela faisait à peine 6 mois que j'étais dans une entreprise où d'ailleurs j'exerce toujours. Une certaine personne qui prenait plaisir à me tourmenter m'a lancé « Tiens, prends ça et va te la voir sur un banc bêta !» et me jette une immense cassette bêta SP. Ceux qui ne connaissent pas la bêta SP, comment dire ? Je touchais frébilement ce monolithe miniature, 2001 oblige. J'en avais les larmes aux yeux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'allais utiliser un magnétoscope bêta SP. Un vrai engin de professionnel, de télévision, le genre de matos lourd de chantier BTP, à bétonner une 4 voies qui fait passer votre HI8 de l'époque en râteau de jardin et les mini DV familiales en panoplie de plage. Pour ma génération, c'est être béni des dieux, sunlight divin, plein feu, effet vaporeux, oh gloria in excelsio, interprété par Isaac Hayes, poudre brillante prodiguée par des angelots intérimaires du spectacle. Bref, les yeux brillants, j'ai foncé sur un des bancs de la petite chaîne de télévision 6 bureaux en face du mien, j'ai inséré la cassette dans le immense lecteur, taille d'une machine à laver, et j'ai attendu la fin de la mire, et vu Power Rangers Time Force. Trahison, déception, documentation. J'ai eu droit à tout. Le classeur technique avec les steel sheets, les CD-ROM, les diapos, une dizaine d'épisodes sur Beta SP et un numéro direct chez Saban Productions au cas où. Mission, produire un jeu sur cette licence. Vous savez ce que c'est que de pleurer de frustra-joie ? Ben moi à peu près. Avoir un matériel de fou pour regarder professionnellement un truc incroyablement stupide dans le canon du genre Super Sentai en spandex moule burne fluo et une gestuelle de Tuffer chasseur de mouches, tout cela pour aller casser du monstre caoutchouteux, le tout photocopié pour le marché anglo-saxon et en tirer quelque chose déprimant, non? Alors, nanti de cette expérience éprouvante pour laquelle j'ai été salarié, je peux certifier ceci. Mighty Moshi Emo Rangers est une parodie absolument réussie de tout ce qui est Power Rangers.
Thomas, tu arrêtes, s'il te plaît.
Car elle utilise tous les canons du genre que chaque point est parfaitement respecté, détourné, déstructuré, recomposé, sauce goth rock. Ils sont largement plus forts que France 5 et Confort. Consort, excusez-moi. C'est jouissif pur. Et l'épisode pilote est téléchargeable. On a le site, le lien est déjà donné d'ailleurs sur le site de l'émission. Ça s'appelle emorangers.com et c'est, comment dire, c'est goth. C'est, comment dire, c'est complètement énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est une histoire de. C'est une histoire de 5 gothiques. Je me suis trompé de piste. C'est l'histoire de 5 gothiques. En fait, il y a une reine des ténèbres qui s'installe sur la lune. C'est vraiment. C'est pompé direct sur les Power Rangers. Et donc les 5 gothiques vont se retrouver à combattre un immense monstre en cuir et en clous, avec chacun leur pouvoir spécial. Il y en a un, c'est tirer sur un joint, l'autre c'est être chiante à mourir, la troisième c'est de briser les cœurs. Enfin, c'est absolument crétin, c'est énorme, ça dure 15 minutes et voilà quoi. Et en plus c'est librement téléchargeable, les mecs ils font ça pour le fun et ça vaut le coup. Voilà, non, vous en foutez, d'accord, merci. Sabrina, Thomas, allez hop au coin là, hein. Vous êtes punis là, on vous apprendra à faire les cons. Ah punaise. Et gosse, je vous jure. On va commencer les BD avec Daijiro Moro Shiori et Shimiko dans La tête décapitée. C'est traduit en France chez Doki Doki. Oui, je sais, Halloween, c'est fini en France, même que l'association Non à Halloween s'est dissoute le 1er novembre dernier. Manière de dire, on va pas tirer sur l'ambulance. Mais on oublie sa portée mondiale. Ainsi, cette série d'humour, cette série d'histoires courtes mêlant humour et horreur, non pas comme Scary Movie ou c'est grandiloquesque, mais plutôt un mélange intime d'horreur et de petites blagues de lycéennes, d'un quotidien qui déraille doucement vers l'absurde et l'affreux. Car chacun des chapitres raconte une histoire horrible vécue par deux lycéennes, Shiori et Shimiko, à qui arrivent toutes sortes d'aventures extravagantes. Comme par exemple, y en a une qui passe à travers un parc où on a trouvé des bouts d'hommes un peu partout, c'est-à-dire un homme a été complètement démembré, et elle prend la tête à l'insu de la police, ou encore elles vont visiter un musée où on vous explique les sensations de chaque méthode de suicide et on vous recommande la meilleure, celle qui correspondra le mieux à votre personnalité. Il y a un camion citerne fou de l'enfer, un homme rognon tueur, et à chaque fois, un livre parfait pour la situation. Comment élever la tête d'un décapité, le guide du suicide par un homme qui a tout essayé, même la guillotine. Exactement le genre de littérature qu'il est impossible de se procurer dans la librairie en ville. Par contre, ce livre, oui. Et son discret pétage de plomb continue, et mêlant Lovecraft et Roland Topor, est un vrai bonheur. Du non-sens mélangé avec de l'horreur baroque, c'est étonnant et plutôt poilant, fallait oser. Shiori et Shimiko dans la tête décapitée, c'est un recueil d'histoires de Daijiro Moro Oshi, et c'est aux éditions Doki Doki. C'est sorti d'ailleurs dans une revue qui est spécialisée dans l'horreur pour jeunes filles et jeunes femmes. Oui, Thomas.
Sabrina remarquait qu'il y avait un marque-page à l'intérieur qui n'était pas à la fin.
Oui, c'est parce que j'ai continué de lire et j'ai pas changé le marque-page.
Ah bon, ça veut, tu veux dire que la fâcheuse habitude de chroniquer des BD que tu aurais pas fini.
Non, je l'ai continué, mais disons que j'avais gardé le marque-page à un endroit et je l'ai oublié, ça arrive. Je parie qu'elle est à la fin de la deuxième histoire. Eh oui.
Non, en plein milieu. Elle est en plein milieu.
Non, c'est fin de la seconde histoire, si je me souviens bien. Je l'avais laissé. Oui, c'est parce que dans le métro, j'essaie de lire des trucs des fois. Parce que j'ai essayé en voiture et j'y arrive pas.
En conduisant ?
Ouais. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait m'aider pour ma voiture, ça serait sympa. T'as des pinces à batterie, Sabrina ? Bon, d'accord.
Pardon ?
Allez, on va passer à totalement autre chose. On va dire que ça va mieux se passer, surtout avec la bande de gamins là que j'ai devant moi.
Hey !
On va parler de choses sérieuses et horribles. Je ne sais pas si vous avez entendu les derniers chiffres. D'ici 40 ans, les poissons auront totalement et définitivement disparu de la mer. Il n'y aura plus de vie animale ou végétale dans les océans. Ce sera qu'un immense dépotoir. Le rapport Stern, un rapport anglais qui a été rendu public lundi dernier, évalue la dégradation de l'environnement, son coût à 5,5500 milliards d'euros par an. C'est dans 40 ans. Ça fait une grosse claque. Katia Sentomo au scénario, Antonella D'Alena au dessin, ça s'appelle Lys, c'est une nouvelle série qui est chez Soleil, le premier tome s'appelle Pleine Lune, et comment dire, je dirais que ce bouquin c'est vraiment de circonstance, puisque ce lundi va s'ouvrir au Kenya la 12e conférence internationale sur le climat. Il aurait été urgent, il n'a jamais été aussi urgent d'agir tous ensemble, et j'ai comme dans l'idée que le président de la nation la plus nuisible pour notre planète prendra ça à la légère, comme d'habitude. Et vous savez pourquoi George W. Bush, il s'en fout? Parce que tout petit, on lui a enseigné que, plus vite viendra l'apocalypse, plus vite tu seras accueilli au paradis, ouais, ce sera super, donc il faut vite détruire la planète. C'est comme ça qu'il pense dans le sang des États-Unis. Donc c'est pas gagné. Enfin, entre ça et précipiter deux avions sur les gratte-ciels, on s'en revient à même. Finalement, c'est du terrorisme. Heureusement, il y a des auteurs, Katia Sentomo et Antonella D'Alena, qui essaient de faire comprendre aux enfants qui vont vivre dans un monde de cauchemars si on ne fait rien, et surtout comment on en est arrivé là. Et ils savent parler aux enfants, ils sont co-auteurs de Monster Allergy, aussi édité chez Soleil. Dans leur nouvelle série, on y est en 2050. La fonte des pôles a inondé la plupart des villes, trop proches des côtes, et même les grands mammifères d'Afrique ne sont plus qu'un souvenir. Rares sont ceux qui, de moins de 20 ans qui ont vu un poisson. Lys est une collégienne qui vit dans une mégapole, un incroyable entassement d'humains, où d'ailleurs on retrouve les 4 seules espèces animales qui n'ont pas encore été éteintes, à savoir la mouche, le cafard, la moule et le chihuahua. Elle a la chance d'avoir comme parents de riches milliardaires qui font tout ce qu'ils peuvent pour sauvegarder les rares animaux encore existants. Bref, elle vit sans eux dans une très belle baraque et elle a une certaine empathie envers les animaux dont elle héberge quelques-uns dans sa propre chambre. Par les nuits sans lune, elle arrive même à communiquer avec eux. Et Lys a un dada, si je puis dire. Et oui, elle tente de libérer les derniers animaux victimes de trafiquants sans scrupules. Bref, quand la nuit tombe, elle met sa cagoule. Mais non, je vais ranger la mienne. C'est Michael, laisse. Mais c'est pour sauver ce qui peut l'être encore de la nature sauvage. Et oui, l'histoire est superbe, c'est une fable écologique qui veut montrer une certaine réalité tangible. Mais bon, avec toutes leurs couleurs saturées, des décors très beaux, vous n'êtes pas sûr d'inciter finalement les enfants à détruire plus vite la planète pour arriver plus vite en 2050. C'est assez horrible finalement. Katia Sentomo au scénario, Antonella D'Alena au dessin, ça s'appelle Lys, le premier tome s'appelle Pleine Lune et c'est chez Soleil. Ouais, alors si même moi je commence, enfin bon. Je dirais que vu l'état technique, là c'était un peu difficile. Sabrina, bonjour.
Bonjour.
Alors, t'as ramené tout plein de bouquins.
Oui.
Pour la bibliothèque de l'école.
Oui, ce sont des BD éducatives. La nouvelle édition, les éditions L'Érudit. Donc justement, ils proposent une nouvelle gamme d'ouvrages jeunesse pour la section documentaire. La bande dessinée éducative, s'amuser pour apprendre.
Ouais. Chouette programme.
Alors justement, ces livres sont au format donc 18-24 en couleur et vise un public de 7 à 12 ans. Et justement, les éditions se sont entourées là de dessinateurs, scénaristes et universitaires spécialisés dans des domaines comme l'histoire, la biologie, la géologie, etc. etc. Justement, les disciplines qu'ils apprennent, nos chers Rubin, en ces temps-ci. Donc ils ont combiné un fond scientifique avec une forme, je dirais, BD, type asiatique, type manga, type manhwa, plutôt coréen, puisque la plupart des scénaristes et dessinateurs, illustrateurs sont coréens. Aïe. Voilà, donc bon, le premier c'est Aller à l'école chez les hommes préhistoriques. Tome 1, dessiné par Yang Chang Gyu. Alors, sur la couverture, son nom c'est Gyu, et dans l'autre page c'est Q.
Ah oui, ça c'est les difficultés justement, la prononciation des langues asiatiques. Là c'est pas bon, franchement, pour les enfants. Ça commence à serrer des dents.
Yaya. Bon, alors, on raconte l'histoire de Théo et de Mina. On suit les aventures donc, de Théo et de Mina, au temps des Australopithèque. Et non, ce n'est pas une insulte du capitaine Haddock. C'est bien nos ancêtres. Et donc on les suit dans les fabrications des armes pour la chasse, fabrication des habits, découverte du feu, etc., etc. Donc tout ça c'est partagé en 14 chapitres. Et à la fin de chaque chapitre, une à deux pages explicatives avec des illustrations qui reprennent le thème, qui approfondissent le côté culturel.
Non, ils n'avaient pas la télévision.
Oh. Ils expliquent comment, d'où vient Lucie. Voilà.
Lucie, c'était la voisine, en fait. Ça se passe dans les hommes préhistoriques. La voisine de Théo et Nina, c'est ça ?
Je vais te renvoyer en cours.
Tu sors. Ouais. Tu sors. Bon, donc... pour ma part, ce que j'en pense, pour ce livre, je suis assez mitigée. Effectivement, le dessin, bon, c'est assez rigolo. Il y a de bonnes gueules, une bonne tête, les personnages. Le problème, enfin, pour ma part, c'est ça hurle, ça crie, ça éructe, ça, voilà.
Ah, c'est un peu dynamique, comme on dit.
C'est plus que dynamique, je dirais. Et effectivement, on s'attache plus, je dirais, aux singeries des personnages. Excusez-moi.
C'est primitif, ça. Ça.
Aux singeries des personnages que, au fond, au contenu scientifique. Voilà.
Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont été si mauvais à l'école qu'ils ont dû aller en Irak. Non, excusez-moi, j'essayais de placer une blague de Kerry, mais je sors la course.
Sors. Qui sort. Donc voilà, donc résumé pour ce livre, enfin, pour ma part, moi je le conseillerais pas pour pour comme un outil pédagogique, je suis désolée, mais parce que justement j'ai un peu peur que, bon, que les enfants justement s'intéressent plus aux personnages que comment les hommes préhistoriques sont arrivés à découvrir le feu et
Ouais, mais ils sont là parce que ça, j'ai regardé un petit peu le petit fascicule là, et ça s'adresse aux 8-12 ans quoi.
Oui.
Donc à cet âge-là, généralement, ils ont déjà un petit peu, on va dire, l'habitude hein, de lire des BD.
Oui, tout à fait, ouais, tout à fait.
Après, différentes formes de lecture.
Oui, oui.
Donc je pense que bon, bah, ça peut les amener justement à découvrir à travers les BD, à travers les intermèdes, donc les interludes, on va dire. Plus ludique, ça peut les amener justement à piocher quelques petits trucs.
Ah oui, non, mais c'est intéressant dans
le bouquin.
C'est intéressant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, lire vraiment, faut lire entre les lignes, faut lire entre les images. Et c'est intéressant dans le sens, bon, c'est vrai que ça apprend les petites choses, comment était un, ce que c'était un biface, ce que c'était, comment fabriquer le feu avec à partir d'une brindille ou frottement de bois. Ça, c'est intéressant pour les enfants. Et voilà. Après, moi, je dis que la forme prend trop le dessus sur le fond.
Okay.
Voilà,
ah, dommage.
C'est mon avis, ce n'est que mon
Surtout
avis.
Surtout qu'en plus, les enfants, ils sont suffisamment dissipés, ils crient assez dans les cours de récré. En plus, si on doit leur montrer l'exemple dans des BD en plus, c'est quand même un peu discutable. Enfin... Après, en même temps, comme disait du sport, parce que ça leur parle plus.
Thomas, par rapport à du sport, a une très très grande expérience des enfants, puisqu'il est actuellement occupé à éduquer un chaton, je le rappelle. Donc, ok.
Voilà, ça c'est fait.
Et une balle, une.
Et une. Le deuxième ouvrage, qui a été écrit par Comic Com et illustré et dessiné par Moon Jong Woo. Donc, aussi coréen, c'est Survivre à un tremblement de terre. Donc on suit les aventures de Momo, Mimi qui est sa cousine et du père de Momo, et ils vont au Japon pour découvrir les sources thermales. Et arrivés au Japon, donc ils arrivent effectivement aux sources thermales, il y a des phénomènes géologiques qui arrivent, un tremblement de terre assez courant au Japon. Donc pareil, là on voit un petit peu comment va survivre les trois personnages, pourquoi la Terre s'effondre, pourquoi il y a...
Enfin, il s'effondre pas, c'est la tectonique des plaques.
Voilà, enfin, voilà. Bref. Je suis pas très doué.
Un peu de précision. Hein.
Que diable.
Que diable. Donc le dessin il est fun, dans le sens où effectivement on reprend le principe, c'est, je dirais c'est plus manga que coréen. Enfin, comme un noix. Je pense que là, peut-être que les enfants, justement, à partir de 8 ans, vont s'intéresser plus à ça. Mmh. Puisqu'ils sont, ils lisent en ce moment Dragon Ball ou Naruto ou autre. Et justement, le dessin des personnages est très simple. Et on retrouve les mimiques, les expressions, situations comiques.
Et les codes, les onomatopées.
Après, c'est vrai que on retrouve un peu un humour un peu pipi caca. Excusez-moi le terme, mais mince. Voilà, c'est un principe, c'est un ouvrage pour le documentaire. C'est aussi normalement un outil pédagogique pour les instituteurs. Comment faire passer justement à des enfants justement le principe des tremblements de terre, des raz-de-marée, des tsunamis et autres, en faisant voir des gamins qui sont en train de se taper dessus et il y en a un qui est en train de péter dans l'eau. Voilà.
En plus, bon, peut-être que ça intéressera Alain Chabat, mais...
En plus, je sais pas dans quel bouquin c'était. À un moment donné, j'ai feuilleté et j'ai vu qu'il y avait une affaire de tiens, je t'ai mis les doigts dans le nez.
Oui, c'est dans le premier.
Pardon,
oui,
dans
voilà, premier. C'est un humour qui est très 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 bas. Arrête pas de cadre. Voilà, c'est rigolo. Je pense qu'ils vont les enfants vont beaucoup s'amuser. Mais
ils vont apprendre grand chose.
Si, ils vont apprendre des choses, mais
des conneries.
Voilà, ils vont apprendre des conneries.
En fait, on est plus proche des Robin des Bois, si tu veux. C'est ça. L'humour
Oui, l'humour oui, oui.
Le film plutôt que la guerre du feu en fait. Et oui, voilà, c'est la même chose.
Voilà, c'est moins à part les pages explicatives où effectivement on apprend beaucoup de choses.
Ah, il y a des pages explicatives.
Oui, tout à fait. À chaque fin de chapitre, il y a des pages explicatives.
Ah, donc ça c'est intéressant.
Ça c'est intéressant avec des petites illustrations qui sont plutôt sympas. On comprend parfaitement bien. Par exemple, comment reconnaître les nuages sismiques. Intéressant. Et
ça c'est intéressant surtout pour les gens qui habitent dans des zones où il y a des tremblements de terre assez fréquents, donc ça s'adresse peut-être plus à des gens qui vivent dans
pas forcément parce zones. Que ça fait partie du programme de scolaire pour les 8-12 ans justement.
Ah bon?
Oui, tout à fait.
Ah,
pas le fait de survivre à un tremblement de terre, mais la géologie, l'apprentissage, la vie et terre.
D'accord.
Voilà, et le troisième qui est pourquoi les animaux. Donc
pourquoi les animaux, franchement. Pourquoi y a-t-il des animaux?
Écrit par Lee Kwang Wong.
Pourquoi y a encore des animaux? On va tous les exterminer.
Mais
heureusement qu'il y a Lys pour nous
illustré par Park Jong-hwan. Alors là, moi je l'ai mis en dernier puisque justement je trouve qu'au niveau scientifique et culturel, ça remonte un peu le niveau. Après effectivement au niveau de dessin, il est un peu juste. C'est le dessin très simpliste qu'on retrouve dans les vieilles BD des années je sais pas 90 pour justement pour dans les ouvrages pour enfants. Mais bon, les illustrations sont jolies, c'est sympa, c'est documenté, il y a des photos, c'est bien expliqué. On suit donc quatre personnages, donc dont le professeur, deux enfants, Hélène et je ne sais plus qui. Je vais retrouver. Et Jimmy. Et dont deux personnages qui représentent le monde animal. Ce sont un petit Africain et un Amazonien.
D'accord. Voilà. Ok. C'est quelle tranche d'âge ?
Pareil, c'est les 8-12 ans.
8-12 ans, enfin plus 12 que 8 parce qu'il y a quand même une belle tartine de texte là, ce que j'ai vu.
C'est de. Oui, mais à partir de 8 ans, ils savent lire, hein, donc il n'y a pas de.
J'ai des doutes quand je vais sur Skyblog.
Si, à partir de 8 ans, ils savent lire.
Si, ils savent lire, ils savent pas écrire, c'est ça.
Non, ils savent écrire, savent lire. Les textes sont simples, c'est des mots simples, il n'y a pas une complication, je dirais, scientifique. Les termes sont expliqués. Donc il n'y a pas de souci pour le suivi.
D'accord, bah tu redonnes les références.
Alors, donc pourquoi les animaux ? Donc aux éditions L'Érudit, écrit par Lee Kwang Wong et dessiné par Park Jong-kwan. Survivre un tremblement de terre, écrit par Comic Com et illustré par Moon Jong-ho. Et le troisième, Aller à l'école, tome 1 chez les hommes préhistoriques, illustré et écrit par Yang Chang-gyu.
Merci! On va passer au cinéma et on va revenir à la BD, oui.
Excuse-moi, une petite note. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un site qui s'appelle www.lerudit.com.
D'accord, on mettra
lien sur la page de l'émission.
Alors c'est juste une page de présentation des différents livres sortis depuis le mois d'août.
Merci Sabrina, on reviendra à la BD tout à l'heure, on va parler puisqu'on est toujours dans le thème des trucs pour enfants qu'il faut voir, du moins avec les gamins, on vous oblige pas, hein. On va pas vous traîner au cinéma par
Si, il faut aller le voir, mais voilà, il faut.
Ouais, je comptais y aller d'ailleurs.
D'accord, donc Thomas, il s'agit du dernier Michel Oslo.
Oui, Azur et Asmar. Ah oui, l'ordi est planté, donc pas de jingle, c'est ça ?
Non, là ça va être un peu difficile.
Putain. Alors, on va passer.
Alors, on le fait à l'ancienne, là. Hein.
Oui, à l'ancienne, comme au tout début.
Ça aurait été bien une petite musique berbère.
Oui, une petite musique berbère.
Non, mais là j'avais pas la petite musique berbère, mais si vous insistez aussi lourdement, j'ai compris. Et puis où ? La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround par Thomas.
Et comme tu l'as dit, il s'agit du dernier film d'animation de Michel Oslo à qui on doit les deux Kirikou. Son nouveau film s'appelle Azur et Asmar. Alors ça raconte l'histoire de Azur et Asmar, donc qui sont amis depuis l'enfance. Le premier, c'est le fils d'un riche seigneur français, et l'autre, le fils de sa nourrice arabe. Ils sont élevés les deux par la nourrice quand ils sont tout petits, mais le hasard de la vie va les faire se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée, puisqu'ils vont être séparés pendant plusieurs années.
D'ici à 15 ans, je crois.
Ouais, dans ces eaux-là, oui, parce qu'il se trouve qu'Azur va parfaire son éducation auprès d'un précepteur, alors que Asmar est chassé de la maison du seigneur avec sa mère. Et ils vont se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée, à la recherche de la fée des djinns, dans un périple qui les amènera à se rapprocher, se retrouver malgré les barrières culturelles. Puisque c'est un film qui parle des préjugés liés au conditionnement culturel respectif de chacun des deux héros. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le premier truc qu'on doit dire sur le film, c'est que, au contraire des Kirikou, il y a beaucoup d'éléments 3D dans le film. Alors, si vous avez un peu vu les images dans les dossiers promo, sur internet, etc., vous pouvez peut-être prendre peur en voyant le rendu de la 3D. Puisque...
Moi, j'ai vu la bande-annonce au cinéma, hein, je peux dire que ça rend pas mal du tout. Hein.
Ça rend pas mal en animé. Mais les gens qui connaissent pas du tout et qui voient les images fixes, c'est vrai qu'il y a de quoi être un peu circonspect, puisque le rendu 3D, c'est quand même assez basique. Mais s'intègre parfaitement au décor et au code couleur du film. Et c'est vrai qu'en image animée, ça disparaît au quart de tour.
C'est nickel. Hein.
C'est vrai que les animes sont peut-être un peu basiques, le rendu très plat, très lisse et tout, mais c'est nickel. C'est
traditionnel.
Voilà, l'animation. Traditionnel, oui.
Ouais, ouais.
Ça rappelle un peu les premiers tests qui avaient été faits en 3D quand il y a les personnages, regardez, il anime la main et tout, mais là, ça participe au choix de la mise en scène et c'est vraiment très intéressant à voir ça. On est très loin effectivement des Pixar et des Disney. Et alors le principe de la mise en scène de Oslo, c'est comme dans Kirikou, c'est que les couleurs sont proches de ce que faisait le douanier Rousseau, c'est-à-dire c'est très très pétard. Et c'est quelqu'un qui utilise la profondeur de champ, mais pas comme pas en réglant la mise au point d'une caméra virtuelle. C'est que tout du premier plan au fond est net. Et les couleurs ne sont pas affadies au fur et à mesure qu'on va vers le fond, c'est tout est net à l'image. Et bizarrement, ça passe. Il y a aucun sentiment de surcharge. Il y a aucune faute de goût. Ils y vont à 150% au niveau des couleurs. Mais c'est ça qui participe aussi à l'effet du film, c'est que c'est l'histoire de Azur qui va dans les pays du Maghreb et qui découvre une culture, mais qui est il est bombardé de couleurs, de parfums, il touche aussi des matières qu'il ne connaît pas. Et c'est vraiment ce sentiment de découverte. Alors quand on a, moi j'ai vu le film, j'ai revu les images après en fixe et là tu te dis ah oui c'est vrai qu'il y avait des trucs comme ça, mais ils sont allés vraiment, ils ont pas eu peur, parce que à un moment donné, t'as une pièce, c'est le hall d'entrée d'une grande maison, et c'est juste les murs et le sol. Il n'y a pas de meubles, et c'est des fresques bleues.
Ouais, c'est le hall
de la maison de Jenan.
De Jenan, oui.
Et alors, je crois qu'on doit la voir, ça le.
Oui, c'est pas très radiophonique, mais en clair, ils ont juste texturé les murs, quoi.
Ils ont texturé les murs tout à fait.
Ça, en termes techniques, ça veut dire, quand on fait de la 3D, c'est qu'on a des volumes, donc c'est des triangles, des carrés, et parfois des surfaces courbes. Et en fait, quand on est texturé, ça veut dire qu'on applique une espèce de papier peint sur ces surfaces.
Voilà, et alors la lumière est sommaire, pas de meubles, c'est pas, ils essaient pas de masquer la pauvreté du lieu. La pauvreté du lieu participe justement à ce...
C'est pas pauvre, c'est assez riche quand même. C'est riche lieu... dans le sens où les motifs mauresques complètent le paysage, quoi.
Oui, mais justement le fait qu'il n'y ait pas de meubles ni de complications dans le décor valorise justement les motifs et les mosaïques. Alors ça c'est le premier truc intéressant, et puis la deuxième chose qu'il faut souligner quand même c'est le propos, c'est-à-dire que ça raconte l'histoire d'un immigré et de sa maman qui sont en France, ensuite ils vont être bannis et qui vont retrouver le fils de leur seigneur au départ, et qui lui va être à son tour émigré de son pays et qui va apprendre à découvrir une autre culture et qui va tenter de passer outre les premières impressions que lui donne quelques personnages qu'il aura rencontrés qui auront une influence néfaste sur son appréciation. Il y a une scène on va pas tout spoiler, mais il y a une scène assez caractéristique où il rencontre un personnage, un vieux qui est un peu, on va dire, la morale assez tangente, qui est d'ailleurs doublé par Patrick Timsit, mais qui vraiment qui est assez efficace, voilà. Et en fait, il choisit de fermer les yeux parce que il atterrit sur la plage assez désertique, il voit des mendiants estropiés et tout. Il dit mais ce pays est vraiment affreux. Je choisis de l'ignorer, de fermer mes yeux, puisque il y a une malédiction ici, une croyance qui veut que les yeux bleus apportent une malédiction. Et il choisit de fermer les yeux, mais en même temps, il choisit de se couper d'une nouvelle culture. Et c'est tout le sous-texte aussi qui est intéressant. Il y a des personnages, il y a un vieux sage juif qui est très ami avec une toute petite princesse arabe qui est considérée comme l'avenir du pays. Donc ça c'est assez intéressant de réfléchir là aussi.
Le mélange des religions dans la même ville, où on voit la mosquée, la synagogue, l'église, et ça c'est intéressant, ouais. Mm-hmm.
Et donc c'est un bombardement de couleurs, de... Alors comme c'est l'histoire, c'est la trame d'un conte, donc évidemment il faut accepter qu'il y ait des situations répétitives, des dialogues qui sont extraits de conte, c'est-à-dire qu'ils vont répéter trois fois la même chose, c'est des épreuves qui se suivent, qui se répètent un petit peu, mais que c'est jamais exactement la même chose, qui sont complémentaires. Donc c'est vraiment un conte, et ça a été scénarisé justement par Michel Oslo, et qui pas à la base un conte, c'est lui qui a scénarisé, c'est une histoire originale, donc voilà, ça tient la route. Après, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça s'adresse aux enfants, c'est assez compliqué dans la mesure où il y a un sous-texte qu'il faut décoder avec lui, mais comme disait Oslo dans les interviews, il dit que de toute façon les enfants ils sont habitués à avoir des choses qu'ils n'en comprennent pas à 100% à chaque fois, et puis c'est justement le rôle des parents d'expliquer, voilà.
C'est un rôle d'accompagnement vraiment au cinéma, quoi.
Et puis il y a une phrase qu'il a citée aussi dans son interview et qui est tout à fait représentative du film, c'est donc Jenan qui a été la nourrice de Azur et qui le retrouve dans son nouveau pays d'adoption dans la deuxième partie du film, et qui lui dit mais tu sais, moi je connais les deux langues, je connais les deux cultures, et quand vous connaissez deux pays, deux langues, deux religions, et bien c'est ça l'intérêt, car vous en savez deux fois plus que les autres.
C'est tout à fait vrai. Donc
Azur et Asmar, le nouveau film de Michel Oslo qui est sorti il y a pas longtemps, hein, je crois qu'on peut encore aller le voir. Nous on est allé à l'Utopia Tournefeuille.
Il va pas tarder à aller à l'Utopia de Toulouse.
Toulouse. Ouais. D'accord. Ok. Voilà.
Et donc je me permets de passer un CD aussi également à Xavier, puisqu'on est encore dans la culture émerveillement, vraiment culturel, et puis ça participe aussi au débat idéologique et puis le débat société. Hein. Donc je te donne un CD si tu peux passer la musique.
D'accord.
Oh non! C'est les gagnants de l'Eurovision!
Je crois que c'est pire! Toi, t'es le chevalier des causes perdues face à moi! Hein.
Une chance, il a pas mis la musique de Minet.
Oui, non, mais ça, je crois que vraiment, je lui en aurais voulu, mais quand même.
Donc, tout ça pourquoi ? Le tome 9 de Sensei Episode G, le manga de Megumo Kada et Masumi Kurumada, est sorti chez Panini Comics. Ouais.
Super. Du sport, lui, il m'a appelé mercredi soir en sautant partout. Faut dire qu'il me rendait de l'appareil de lundi soir où je lui ai dit « Punaise, c'est impressionnant, c'est quoi, l'adaptation terrible. L'adaptation de la frère Grégory, les tronches qu'ils ont pris, c'est ça, c'est impressionnant. » Et lui, il me rappelle, il me fait « Ah, au fait, j'ai un super bouquin à chroniquer, là. » D'accord, bah vas-y.
Il s'agit tout simplement de Captain Britain qui devait sortir normalement plutôt fin novembre, qui sortit un petit peu plus tôt le bouquin issu, hein, qui est paru en périodique en fait au départ, quoi, dans le Marvel Angleterre. Hein. Bon, c'est pour ça que c'est plus ou moins un petit truc assez rare, hein, parce que bon, il fallait connaître l'anglais, il fallait avoir l'édition anglaise du Marvel périodique pour avoir les histoires de Captain Britain, qui était un petit peu un dérivé de Captain America, hein, tout simplement, hein, dans l'univers Marvel, écrit au départ, imaginé au départ par des Anglais, donc hein, par la division anglaise de Marvel Grande-Bretagne.
Ah, il faut à ne pas confondre avec le Captain Marvel qui existait en Angleterre, ouais. Que Marvel, la boîte américaine, a fait couler parce que c'était un personnage qui ne possédait pas.
Voilà, et
Et qui avait rien à voir avec la Marvel. Captain Marvel, si?
Non.
Non, c'est autre chose. Qui était paru dans un petit truc, dans un petit fanzine indépendant au départ. Et là, donc à un moment donné, on décide d'intéresser Alan Moore, qui s'est déjà fait un nom dans la BD en Angleterre, mais en tant que franc-tireur, on va dire, en tant que scénariste. Et on lui confie donc, on décide de lui confier les rênes de Captain Britain, avec Alan Davis au dessin. Et les deux, Alan, bah, ils décident de tout simplement pas faire dans la dentelle. Enfin, surtout pour Alan Moore, qui...
il en a eu un très mauvais souvenir, tu sais, de ça. Il a dit que c'était la dernière fois qu'il bossait avec Marvel.
Ouais, mais enfin, il est plus ou moins revenu, on va dire, sur ses dires de l'époque, parce que bon, dans le texte d'intro, qui est signé de Alan Moore, d'octobre 2001, eh bien, il n'arrête pas d'adresser des louanges à son dessinateur Alan Davis, qui a créé une œuvre absolument remarquable, qui tient la route, qu'il a réussi à développer, justement. Enfin bon, il est un petit peu dithyrambique, on va dire, à la lecture, dans cette intro de ce bouquin qui s'appelle Captain Britain. Alors, Alan Moore, on lui confie les rênes de ce Captain Britain qui est déjà existant, donc bon, bah, reprendre les codes d'une histoire déjà existante et tout, ça l'intéresse pas trop. Bah, il le fera encore par la suite, je crois, avec Batman, Dark Knight Return, et avec d'autres super-héros. Mais il essaiera toujours de développer quelque chose d'original. Et là, pour essayer de développer quelque chose d'original, bah, il n'hésite pas, pratiquement dès le début, de la petite histoire, parce qu'en fait, ce sont dans ce bouquin des petites histoires parues dans les périodiques qui ont un certain nombre de pages, on va dire 8 à 10 pages à chaque fois, avec le petit titre, avec le prologue, et pratiquement dès la première histoire, et ben lui, il dégomme Captain Britain, il le tue carrément pour pouvoir le faire renaître, mais pouvoir le refaire renaître plus ou moins à son image, c'est-à-dire pour pouvoir le faire participer pleinement à l'histoire qu'il a envie de développer. Et après, ça va rester du début jusqu'à la fin une histoire de vrais super-héros, avec le super grand méchant Jim Jaspers qui n'arrête pas de contrôler différents mondes parallèles. Il y a différents mondes parallèles, bien entendu, il y a tout à taper. Il n'y a pas que Captain Britain, on apprend qu'il y a également Captain Albion, il y a également Captain England, enfin tu vois quoi, parce que bon, bah, il y a des mondes parallèles, il y a toute une tapée, et donc à chaque fois il y a un super-héros qui correspond à Captain Britain. Ils en font un clone, donc avec un super méchant qui s'appelle Jim Jaspers, avec le retour de quelques super-héros que justement Captain Britain, dans un monde parallèle dans un autre monde, avait exterminé, comme Slay Master, comme Mastermind, et des petites choses comme ça. Enfin, l'histoire, elle tient debout, et de toute façon, c'est Alan Moore qui a créé encore une histoire tout à fait remarquable, du début jusqu'à la fin, on peut le dire, ça part dans tous les sens. Le dessin est très classique, c'est le dessin que moi j'aime bien, on en avait parlé la semaine dernière à propos du dessin du Spider-Man là, avec de Kevin Smith. C'est tout simplement excellent. Je crois que c'est des histoires qui sont sorties un petit peu avant les Watchmen. Bon, ça préfigure un petit peu de ce que pourra être les Watchmen un petit peu par la suite, mais enfin, il n'y a rien à dire, ça se laisse tout simplement lire, savourer, déguster. C'est Captain Britain, donc, également paru chez Panini, comme le précédent. C'est eux qui distribuent donc Marvel, la couverture cartonnée donc de Alan Moore et Alan Davis. Captain Britain, à qui je le donne. Prête.
Ça m'apprendra. Oui, vas-y Thomas.
Je voulais juste dire, signaler qu'à cette table, il y a quelqu'un qui a commencé les Watchmen plusieurs fois et qui n'a jamais fini, car elle n'accroche pas du tout à cette BD.
Malgré tout, on lui confie un bouquin d'Alan Moore. Là.
Je pense que c'est plus lisible que les Watchmen quand même. Je veux dire, ça part quand même dans tous les sens, mais c'est quand même un petit peu plus lisible.
Ouais, mais les Watchmen, c'est énorme,
Les Watchmen. Il y a quelques petites allusions là, c'est ça qui est bien de la part du scénariste.
Oui, Alan Moore joue beaucoup.
Alors à un moment, t'as une scène où t'as plein de gens qui sont réunis, et puis t'as Ringo Starr en plein milieu, tu vois, genre dessiné comme All You Need Is Love, tu sais quoi, le dessin animé là.
Yellow Submarine.
Ouais. Voilà, t'as aussi à un moment donné, il a une baston avec je sais plus qui. Et je rappelle que la résurrection, elle est datée d'ailleurs du 7 septembre 1982, pour vous situer un petit peu la période. Donc on rentre dans l'époque thatchérienne un petit peu, ça commence à être
ça faisait 3 ans déjà.
Ouais, ouais, mais là, on est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire là, on commence vraiment à ressentir les effets hein, de ce qu'est la politique de Madame Thatcher en Angleterre. Ça se passe pratiquement entièrement en Angleterre. Et
pas du mal d'une politique de droite.
À un moment, il y a une grosse baston, tu vois, quoi. Et puis bon, il se fracasse contre la vitrine d'un magasin qui a un magasin de vente de BD qui s'appelle Forbidden Planet, quoi.
Oui, oui. Mais...
En 82. Et puis
mais,
bon,
ça a été fondé en Angleterre. Hein, et ensuite, c'est devenu une chaîne qui a essaimé effectivement en Belgique et aux États-Unis. Et c'était une librairie d'ailleurs où Alan Moore allait très régulièrement.
Ouais, ouais.
Donc voilà.
Voilà, donc hein, c'est Alan Moore, Alan Davis pour ce Captain Britain qui j'ai regardé dans différentes librairies de la ville hein, qui n'est pas soldé. Hein, c'est vraiment le prix qui est marqué ce bouquin. Il est vendu à ce prix-là, les mecs. Là, ils savent qu'ils ont de la marchandise qui se vend. Donc,
22 euros.
22 euros, laisse tomber. Hein, t'auras pas 1 euro, 2 euros de réduction, que dalle, quoi. À moins de fréquenter les industriels.
Les industriels. Sur la place du Cap.
Ouais, on mais pour fait l'instant, c'est pause. Pas encore une occasion, tu vois, ça vient de sortir.
Et puis les gens qui l'ont, ils vont pas le vendre.
Peut-être pas, non.
On fait une pause, il est 12h53 sur Poubelle des Radios FMR. C'est le supplément week-end avec beaucoup de panne technique. Et ma foi, je crois que ça va se finir par un retour dans le temps.
I've just found joy. I'm as happy as a baby boy. With another brand new choo-choo toy. When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine. A pair of eyes that are brighter than the summer sky. When you see them, you realize why I love my sweet Lorraine. Now when it's raining, I don't miss the sun. Because it's in my baby smile. Oh, and to think that I'm the lucky one. That will lead her down the aisle. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine.
Nothing Call sur FMR, comme ça.
Ça faisait du bien, hein, non?
Du sport.
Ouais, et puis en plus ça colle avec l'époque dont je vais parler. Après la petite revue de presse, vite fait, le nouveau numéro de SoFoot est sorti avec un spécial Olympique de Marseille, également une grosse enquête sur le foot belge, un truc sur la fiancée de Ronaldinho, ah ouais ouais, avec des photos tout de suite d'enfer quoi.
Ouais,
bon mais vite fait, celui-là je te le prête pas, tu vois.
Ouais, attends, je vais
retrouver. Ok, ça roule. Sinon il y a également le nouveau numéro de série TV, numéro 33 avec qui ça en couverture? Oh, Lincoln et Michael en couverture. Il y a également Jack. Jack est également en petite couverture là quand même, tu le vois un petit peu. Hein. Et bien sûr il s'agit de Prison Break, avec il est partout, hein, ils sont partout de toute façon quoi, mais enfin bon c'est surtout intéressant parce que t'as le gros dossier en ce qui concerne ce qui va se passer dans la saison 2. Ouais, justement. Et ainsi que d'autres séries bien entendu. Des articles pas mal, hein, c'est celui des c'est un bimensuel ça il me semble, hein, ou un bimestriel. Bimestriel, voilà, c'est ça, hein, c'est le numéro de décembre et de janvier, tu vois, que j'ai dans les mains, quoi. Alors qu'on est début novembre, quoi. T'imagines. Il y a surtout quelques articles très intéressants qui concernent les télés, la télé française, avec, déjà ce que les chaînes du câble ont acheté, enfin, qui vont nous diffuser, qui nous ont pas encore diffusé. Également, le truc sur la guerre des polars. Alors, la diffusion sur les chaînes françaises des polars, hein, les experts, NCIS, Miami. Et là, donc, ils nous ont fait un top 5 du prime time sur le mois de septembre-octobre, et c'est les experts qui l'emportent bien entendu avec l'épisode diffusé dimanche 3 septembre, 9 millions de téléspectateurs devant les experts, suivi des experts Miami, c'était mardi 12 septembre, 8,6 millions de téléspectateurs. Grey's Anatomy, hein, c'était le fameux final dont je t'avais parlé, hein, qui avait été diffusé en, ouais, en prime time, mardi 10 octobre, 6,4 millions de téléspectateurs. Lost, 6,3 millions de téléspectateurs samedi 23 septembre. Et NCIS, également le 13 octobre, 6,3 millions de téléspectateurs. Et il développe un petit peu en disant que, par exemple, dans le match du dimanche soir, quand les experts sur TF1 font, on va dire, 30% de part de marché, FBI et portée disparue sont quand même à 50% de part de marché. C'est-à-dire, quand TF1 est à 8 millions et des poussières de téléspectateurs, en face, il y a quand même 5 millions, un peu plus de 5 millions de téléspectateurs.
Ah oui, quand même.
Qui sont devant FBI portée disparue. Bon, ça veut dire que bon, c'est pas top, quoi, au niveau audience pour les états-majors économiques, on va dire, et publicitaires des chaînes. Mais ça veut dire quand même qu'il y a du monde. Enfin, tout ça, donc, on peut le lire dans ce numéro de série TV où il y a également putain, je sais même pas pourquoi j'ai corné cette feuille, quoi. Si si, où il y a également la pub qui tue de l'enfer et tout, quoi. Celle-là, elle est trop bonne, quoi.
On vient de très loin pour regarder Sifi Chanel.
Très très bon, oui, joli.
Excellent, quoi. Ou bon, il y a voilà, quoi. Sinon bon, bah il y a les trucs habituels, il y a une interview, voilà, c'est ça, il y a l'interview du réalisateur de Nip Tuck, c'est ça. Il y a interview également de Michael Chiklis et de Marie-Louise Parker pour sa série Weeds, également plein d'autres petites choses, tout ça dans série TV, voilà. À présent, je m'étonne que tu en parleras la semaine prochaine peut-être du Dahlia Noir.
Ah, certainement, oui.
Ah bah voilà,
ouais, d'aller le voir avant.
Tu vois, voilà. Moi,
on va aller voir le labyrinthe de Pan demain, moi, qui aura ça aussi.
Ok, surtout. Ok, ouais, ouais. Ah,
bah, oui, il y a aussi les fils de l'homme.
Oui, les fils de l'homme.
Ouais, ouais. Oh putain, ça.
Oh là 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 là.
Dis donc. Non mais attendez, faut se calmer parce que je vous rappelle donc qu'en plus il y a les 25 ans de Radio Éphémère, donc il faut sérieusement prévoir un budget pour ça. Et puis il va aussi avoir. Mais pas de suite.
C'est quoi ça?
Attends. Allez, ça fait partie du questionnaire, ça, mon cher ami.
Ah, ouais, pourquoi? Pourquoi Docteur Who?
Non, mais
parce qu'il arrive sur France 4, c'est ça?
Ouais, ça repasse bientôt.
Ouais. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Hein.
On n'en est pas encore là. Ce sera la semaine prochaine, peut-être.
Bon, peut-être. Vous n'êtes pas sans savoir que mercredi prochain sort au cinéma le Brian De Palma qui s'appelle, je sais pas quoi, la Dahlia Noir, quoi. À propos de cette fameuse histoire, le meurtre d'Elizabeth Short en décembre 47, me semble-t-il. Meurtre donc jamais résolu, et avec plusieurs révélations. On a bien entendu parlé du bouquin que James Ellroy a sorti il y a maintenant il y a pas mal de temps, hein, quand même. Et on a parlé un petit peu plus récemment, bah, c'était l'année dernière, de ce bouquin qui était sorti de Steve Odell concernant l'affaire du Dahlia Noir, hein, complément d'enquête, révélation inédite, hein, et il avait de quoi, vu que c'est la thèse la plus convaincante, on va dire, hein, qui existe actuellement aujourd'hui en ce qui concerne l'assassinat du Dahlia Noir. Et que dans le numéro de novembre de Technicart sort également une double page, mais qui a tué le Dahlia Noir. Là, ils sont également très complets. Hein, parce que ils ont parmi tous les suspects, il y a les très suspects, il y a les possibles et il y a les improbables. Il y a même Orson Welles qui est cité, tu vois, quoi, pour te dire. Si si, non non, mais c'est pas des conneries. Hein. Parmi les très suspects, bien entendu, hein, il y a George O'Dell, pardon, hein, le serial killer, comme il est appelé dans Technique Art, hein, qui est le père donc de Steve O'Dell, le mec qui a pendu tout ce bouquin. Steve O'Dell qui faisait partie des services de la police de San Francisco ou de Los Angeles. Los Angeles, voilà. Et qui, à la mort de son père, a récupéré des papiers personnels. Et dans ces papiers personnels, il a trouvé des photos bizarres et il a commencé à chercher à approfondir un petit peu. Et il a un petit peu réouvert l'enquête comme il faisait parce que quand il avait fait son temps donc dans les différents services de police de Los Angeles, il était à la retraite et donc là il a remonté son truc à la manière d'une enquête. Il a mis le temps qu'il a fallu et donc ça nous donne ce bouquin qui est vraiment très très fouillé, qui fait 700 pages et qui est monté d'une part dans la première partie de son histoire personnelle, c'est-à-dire l'histoire de son enfance et tout, parce que son père est quand même personnage aux facettes multiples qui s'est remarié plusieurs fois, donc il a beaucoup de demi-frères et demi-sœurs, tu vois le genre quoi. Et en plus le type n'hésitait pas à travailler d'un côté de l'Atlantique comme de l'autre côté de l'Atlantique, tu vois. Ensuite à partir de l'annonce du meurtre de Elizabeth Short entre autres, il commence à faire un petit peu l'historique également de la police de Los Angeles avec tout ce qui s'est passé, les gros scandales dont on a également entendu parler justement dans les nombreux bouquins de James Ellroy, hein. Faut savoir que le tueur de Los Angeles, tout ça, bon ben ça parle justement, hein, ça n'arrête pas de parler en tout cas de cette police de Los Angeles qui est un petit peu Hollywood, qui est un petit peu vérolée, complètement corrompue et tout, les histoires d'avortement clandestin. Dans Ellroy, bon ben il y a la fiction qui se mêle à la réalité, mais il y a beaucoup de réalité, hein, que dans les bouquins d'Ellroy, qui s'est vraiment beaucoup documenté sur cette période.
C'est le principe du roman noir, c'est se nourrir énormément de la réalité justement.
Ouais ouais. Et là bon, par contre il ne s'agit que de réalité, donc avec les différentes histoires. Et donc on a sur pratiquement 400 pages et eh ben la reconstitution et l'enquête, hein, menée par Steve O'Dell donc sur le Dania Noir, avec ce qui fait un des points de discorde, hein, alors j'ai marqué les pages, c'est la différence qu'il y aurait entre les deux, entre les photos que lui il a retrouvées d'Elizabeth Short dans la collection de son père et les photos de Elizabeth Short qu'on avait à l'époque qui étaient des vraies des photos officielles, vu que le corps a été découvert coupé en deux et défiguré, donc c'est un petit peu difficile de faire des éléments d'après le corps et d'après l'autopsie. Alors je sais pas si vous voulez un petit peu regarder là, là t'as les différentes photos, hein, qui sont en marque-page.
Je rappelle que vous écoutez de la radio et que donc si vous n'avez pas encore payé vos impôts locaux, si vous avez un poste de téléviseur cette année, on inclut la redevance télé.
Vous l'avez dans le cul. Dans le cul. Voilà, donc la préface de ce bouquin est d'ailleurs de James Ellroy, hein, James Ellroy qui est pas d'accord avec la thèse de Steve O'Dell, parce que justement il y a cette histoire de photo qui tient pas. C'est également l'avis de Stéphane Bourgoin, hein, qui a sorti un bouquin également sur l'affaire de la Bien-Noir.
Stéphane Bourgoin qui est le grand spécialiste français sur les tueurs en série.
Voilà, et qui lui non plus n'est pas d'accord avec cette thèse là. Tout ça pour vous dire que à la télé, comment ça va se retranscrire au cinéma, on sait, hein, c'est mercredi prochain, donc le dernier de Palma avec Scarlett Johansson, Josh Hartnett,
Hilary Swank.
Ça craint, là. Ouais, heureusement qu'il y a Hilary Swank, quoi. Et il va y avoir quelques petits seconds couteaux intéressants, mais bon, ouais. Bon,
Scarlett Johansson, quand même.
Ouais, ouais, bon, d'accord. Hein. Bon, d'accord. Okay. Si tu le dis. Par contre, à la télé, on se jette sur l'aubaine, bien entendu, avec des Ellroy en veux-tu, en voilà. Deux soirées qui sont prévues, l'une lundi soir sur 13e rue, c'est des deux à mon avis la plus intéressante parce que la plus originale, je pense, parce que j'ai aucun souvenir d'un téléfilm s'intitulant Brown's Requiem d'après le premier livre édité de James Ellroy, hein, Brown's Requiem, l'histoire de Fritz Braun, filmé et sorti en 98, un téléfilm de Jason Freeland avec Michael Rooker dans le rôle titre, hein, de Fritz Braun. Il y a également un rôle Gould, Brian James, un de ses derniers rôles, hein, puisqu'il est mort je crois en 99 me semble-t-il, mais Selma Blair, suivi à 22h40 d'un documentaire de Thibaut Châtel de l'année dernière qui s'appelle La vérité sur le Dahlia noir et qui s'attache justement à la version Steve Odell, c'est-à-dire celle dont je viens de vous parler, hein, de cette affaire du Dahlia noir. Et par contre, Arte, vendredi prochain, dans l'excellente seconde partie de soirée qu'ils ont le vendredi soir, hein, t'as vu le truc sur l'expressionnisme allemand hier soir? Aïe, 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 grandiose, magnifique.
C'était bien,
ouais. Ah, ouais, ouais.
Mais désolé, je regardais Bibi sur Cinépolar.
Non, ça regardait Kaamelott en DVD.
Ah, c'est pas la même culture, hein. Alors, vendredi prochain sur Arte, à 22h15, James Ellroy, American Dog, de C&R Kupperberg, et il me semble, alors c'est marqué inédit, hein, sur mon programme, mais il me semble que c'est un documentaire qui a déjà été diffusé, comme c'est le cas du film qui illustre un petit peu le propos, hein, hier soir, là, c'était le testament de Dr Mabuse. Le truc qui tue, quoi. Là, il s'agira de Cop, un bon film, hein, de James B. Harris de 87, qui sera diffusé en VO avec James Woods et Leslie Ann Warren, hein. Il est bon, hein, c'est un bon petit film, hein, une bonne petite série B en tout cas, mais déjà vu. Donc on préférera quand même la soirée de lundi sur 13ème rue avec Brown's Requiem, donc en première partie Michael Rooker, et La vérité sur le Dahlia noir à 22h40. Un peu de télé toujours avec Prison Break. Alors t'as vu, ça y est, ils sont dehors, ils ont franchi le mur. ça y est, pratiquement tous. Puisque Westmoreland, enfin bon, D.B. Cooper, alias D.B. Cooper, comme il s'était pris un bout de verre, tu sais, parce que en fait, Bellick, il avait trouvé le trou. Cet enfoiré de Bellick a trouvé le trou. Et donc, il tombe sur Westmoreland. Il dit non, l'évasion, c'est pour ce soir, on peut pas laisser faire ça. Et donc, grosse baston. Et là, la baston pas mal en plus, hein, tu vois, quoi, franchement, quoi, Bellick avec une pelle, l'autre juste avec un espèce de petite massue et tout, quoi, assez intéressant quand même. Et bon, il réussit à assommer Bellick et à l'attacher, à le foutre dans le trou, carrément, hein, à le ligoter, à le bâillonner, hein, histoire qu'il bouge pas, quoi. Mais par contre, dans la bagarre, il s'est pris un bon tessant de bouteille dans le bide et ça va commencer à couler, à pisser tout doucement et tout. Et il va falloir attendre le moment, jusqu'au moment où avec les autres, ils vont pouvoir s'évader, ils vont pouvoir sortir en passant par l'HP, en passant par l'infirmerie, parce qu'il faut récupérer l'autre, hein, bien entendu, et tout, quoi. Mais heureusement, grâce à Sarah a laissé la porte de l'infirmerie ouverte, et donc ils ont pu rentrer dans l'infirmerie sans péter la porte, hein, parce que bon, vu la serrure, je veux te dire, c'était pas trop difficile à péter, quoi. Et donc ils ont réussi à franchir le mur, ils sont tous dehors, donc sauf D.B. Cooper, hein, qui agonisait carrément dans l'infirmerie, donc ils l'ont lâché. Mais il a quand même révélé que c'était lui vraiment D.B. Cooper, et que donc vraiment il y avait du pognon qu'il avait caché, hein, avant de se faire emprisonner il y a beaucoup d'années de ça, dans les années 70, mais que c'était pas $1 million, c'était $5 million. Mais le problème, c'est que Michael, il n'était pas tout seul à côté quand D.B. Cooper il a raconté tout ça, et donc faut croire que mercredi prochain, dans le dernier épisode de la saison 1, où là ils sont dehors, ils ont franchi le mur, donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer d'aller jusqu'à l'avion qui a été affrété par Abruzzi. Alors Abruzzi, moi je croyais qu'il était mort, mais en fait il était pas mort du tout, non. Il résistait, c'est normal. Il a trouvé. Il a trouvé la voie divine et tout. Il cite Dieu maintenant et la Bible tout le temps, donc il n'y a pas de problème et tout. Il appelle Bagwell et T-Bag, il l'appelle Théodore maintenant, quoi. Attention, hein, enfin ces deux-là, il faut les suivre. Tout ça, c'est mercredi prochain, donc dans Prison Break à 20h50, dans l'épisode des Fugitifs, hein, le dernier épisode de la saison 1, qui sera suivi du premier épisode de la saison 2, histoire de te faire bien saliver. Histoire de te faire saliver jusqu'à l'été prochain. Quoi, tu vois. Après, t'attends jusqu'à l'été prochain pour avoir la suite.
C'est ça, oui. T'es content, hein. Je comprends pas.
Hein, mais c'est M6.
Et pour patienter, heureusement qu'il y aura une autre série adorée par du sport, alias.
Ouais, super. Alors, c'est suivi à 22h30, toujours sur M6, mercredi prochain, de Prison Break, les secrets de la série, parce qu'ils ont acheté la série, mais ils ont acheté le package complet, tu vois, avec les tournages et tous les trucs qui livrent maintenant.
Un making of, hein. Tout le monde est gentil, tout le monde dit il est beau.
Tout compris avec les interviews, ouais, c'était super et tout, voilà. Tout le monde est vachement content.
Quel acteur.
Ouais, génial, j'ai beaucoup appris en jouant avec lui. Enfin, toujours les mêmes trucs, quoi. Voilà, tout ça dans Prison Break, quoi. Non, non, mais quand même. Hein. Et puis l'autre dehors là, qui jusqu'au dernier moment. De toute façon, je pouvais pas sentir sa gueule. Je me disais bien qu'à un moment donné, le mec qui était avec Véronica là et qui lui file un coup de main, son collègue avocat là et tout quoi, qui au dernier moment il dit non, je peux pas te laisser faire ça et qui lui sort le flingue. Pourquoi? Parce qu'il bosse pour les mafiosi. La belle histoire, mon gars. Mais ça fait rien parce qu'elle réussit quand même à se tirer, tu vois. Et ça, ça fait plaisir. Bon, revenons à des choses un peu plus sérieuses.
On va s'en sortir. Oui.
Avec ce soir dans l'épisode de New York Unité Spéciale sur TF1 à 23h10, 23h15. Ce soir donc, un épisode inédit, bien entendu, de la saison 7 qui s'appelle Venin Familial. Et là, on s'intéressera plus à la vie de Finn Tutuola, à savoir Ice-T, qui a un fils. Ça, on l'a déjà vu, hein. Son fils il a déjà été mêlé à une histoire pas terrible. Enfin bon, il s'en était bien tiré. Et où Ice-T, en plus, il apprend que son fils, il est gay. Alors bon, ça avait foutu les boules, hein. Si tu veux, bon, enfin bon, hein, voilà.
Putain, c'est dur pour un gangster à part.
Là, ça va être un peu plus difficile parce que le fils de Ice-T est arrêté la nuit dans un terrain vague en train de creuser. Et il affirme avoir entendu dans un bar un homme avouer le meurtre d'une femme. Là, ça va pas être pareil, mon gars. Tout ça, c'est dans New York Unité Spéciale ce soir, donc sur TF1 à partir de 23h10. Et en première partie de soirée ce soir, ouais, je vous ai fait un petit spécial TV Braze avec des Colombos et tout.
Je m'en doutais.
Le Colombo de ce soir, c'est un classique du genre. De toute façon, on ne se lasse pas de le revoir. Ça, c'est la formule consacrée, tu vois. L'enterrement de Madame Colombo.
Encore.
Non.
Et chaque fois qu'il parle de Colombo, c'est pour cet épisode.
Attends, y a pas que ça. Donc c'est le Colombo de 89 de Vince McVitie. Qui à l'époque c'était lui qui le faisait tous, hein. De toute façon il a récupéré la franchise pratiquement, donc c'est lui qui les a réalisés pratiquement jusqu'à la fin, hein, jusqu'au dernier, le plus récent, et donc avec Peter Falk et Helen Shaver, mais c'est un grand classique, donc hein, c'est sur TV Braze, hein, c'est leur rôle, hein, de diffuser les fonds de tiroir, hein, de toute façon, c'est ce soir à 20h50, sinon demain, bon, là... Effectivement, c'est du très haut niveau. My Name is Earl, qu'on appelle Earl en français.
Hein,
le titre de la série en français s'appelle Earl. Alors c'est con, hein, My Name is Earl, hein, ça passe tout aussi bien. Alors c'est vraiment très très bon, c'est excellent, hein, c'est très bien foutu. L'histoire de ce type qui, bon, il vit de petits larcins, tu laisses ta voiture ouverte et tout, t'es sûr qu'il n'y a plus rien dedans, hein, même les bonbons, enfin bon, tu vois, genre, qui passe son temps devant la télé, à boire de la bière et tout, peut-être à fumer des joints aussi, me semble-t-il, bon, enfin bon, c'est pas trop mis en valeur, et qui, gagne au loto, tu vois, il gagne au loto, super et tout, quoi, mais il est tellement content qu'il se fait renverser par une bagnole et il perd son ticket de loto. Et donc, il perd son ticket d'auto, il se dit, bon, bah, c'est une question de karma et tout. Il regarde une émission de télé à un moment et tout, quoi. Il tombe sur un mec qui parle de karma. Il se dit, c'est ça, quoi, c'est une histoire de karma. Et donc, il se dit, bah, maintenant, comme j'ai fait vachement de mal et tout, et puis j'ai été puni, quoi, puisque, bon, bah, j'avais une chance de gagner, puis bon, j'ai paumé le ticket. Et bah, maintenant, je vais essayer de refaire le bien pour toutes les actions que j'ai pu faire. De négatives. Et donc il se fait une putain de liste avec je sais pas 250 ou 260 propositions, tu vois, de toutes les choses mauvaises qu'il a pu commettre et qu'il va essayer de réparer. Sur ce, bah il va retrouver son ticket paumé, tu vois. Hein, et il va commencer sa quête avec des trucs pas possibles. Alors bon, le seul inconvénient, c'est de se dire, ok, ça tient la route sur deux épisodes, les deux premiers épisodes qui ont été diffusés dimanche dernier. Est-ce que ça peut tenir la route sur toute une saison, sur le seul film, sur le seul motif, voilà, il faut que je rachète mes fautes et tout, et la rencontre de différents personnages qui vont être des familiers, ou alors des personnages un petit peu plus improbables, des situations un petit peu plus improbables. C'est là qu'est le pari, hein, mais cette série, on sait, a reçu l'Emmy de la meilleure comédie au dernier Emmy Award, également le prix du l'Emmy du meilleur réalisateur. C'est pas mal, en tout cas très bien servi, hein, par une petite brochette d'acteurs pas trop connus, outre Jason Lee qu'on avait déjà vu dans plusieurs films et peut-être dans d'autres séries, mais sinon les autres, il y a des habitués des séries télé surtout, hein, mais du grand écran pas trop. Mais enfin bon, mention spéciale quand même au demi-frère et à la femme, à l'ex-femme on va dire, hein, de Earl, qui sont absolument flamboyants. C'est pas mal, ça se laisse regarder. Donc c'est sur Paris Première tous les dimanches soirs, enfin en début de soirée pardon, à 19h50 avec deux épisodes en version multilingue. Donc demain soir vous avez Cheval de Troie et Mort Vivant, et c'est rediffusé le jeudi soir à 22h45 cette semaine là. En même temps il y a de la rediff. Et là, c'est pas mal parce que c'est sur Comédie, donc également avec la possibilité de la manette multilingue. Et il s'agit de la série Two and a Half Man, à savoir Mon Oncle Charlie, avec Charlie Sheen dans le rôle titre. Et là, c'est bien parce que il nous rediffuse à partir de demain soir à 20h45 la série depuis le début, donc à voir pour l'épisode pilote, c'est-à-dire la mise en situation des personnages. Et parce que c'est une série qui a déjà chopé pas mal d'émis, c'est la série qui a relancé Charlie Sheen à fond les manettes. La série continue à être diffusée, je crois qu'ils en sont à la troisième, à la quatrième saison déjà, ce qui pour une série comique est très difficile, hein. C'est pas évident, hein, de maintenir le cap pour ce genre de série comique. Là ça marche très très bien. Il y a quelques épisodes qui sont vraiment cultes, hein. Il y a un épisode où il joue aux cartes avec Sean Penn et Elvis Costello, tu vois, enfin des trucs, bon, t'es là, tu te dis ouais, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, hein. Alors, donc c'est donc Charlie s'est rediffusé à partir de demain soir sur Comédie, 20h45. Sinon, Regenesis, c'est tous les dimanches soirs, donc sur 13e rue, mais très tard le soir, hein, à 23h45. Ça, c'est la deuxième saison, donc, hein, des épisodes inédits. Mais par contre, eh bien, Sci-Fi a décidé de se relancer dans la diffusion de Regenesis à partir des débuts, pilote, saison 1. C'est lundi prochain à 20h50 avec deux épisodes, dont le pilote, sur la chaîne Sci-Fi. Sinon, pour les épisodes inédits, donc je rappelle, c'est demain soir sur 13e rue à partir de 23h45. Encore un petit Columbo, hein, ouais, celui-là est pas mal. C'est un Columbo toujours sur TV Braise, hein, 23h20 mardi prochain, qui s'appelle Symphonie en Noir de 72. Donc là, c'est déjà plus vintage, tu vois, quoi, réalisé par Nicolas Santo, avec Myrna Loy et John Cassavetes. On sait que ils en ont tourné deux ou trois, je crois, hein. Cassavetes, il a tourné plusieurs avec son très cher pote Peter Falk, hein, parce que c'est des potes qui se connaissent depuis très très longtemps, depuis avant que Columbo il ait vu son œil. Mais là, ça fait plaisir parce que bon, généralement c'est des histoires assez bien goupillées. Donc mardi prochain, Columbo sur TV Braise à 23h20, Symphonie en Noir. Sinon, mardi prochain également, bah, le retour également d'une série que moi j'aime bien, quoi, qui est assez rigolote, hein. Il y a plein de second degré et tout. Alors c'est un petit peu le trip Men in Black, hein. C'est ça s'appelle Special Unit 2, et c'est une unité spéciale qui est chargée de traquer les démons, parce qu'il faut savoir que sur la Terre, tu vois, le trip de Men in Black, il y a des démons et des extraterrestres, des machins qui courent un petit peu partout, qui se déguisent, tout ça. Alors il y en a des bons et tout qui peuvent cohabiter et tout, ou peuvent se planquer sous des formes plus diverses, hein, c'est-à-dire revertir en enveloppe charnelle, ou se planquer dans une bouteille d'eau, enfin plein de trucs, tu vois. Et il y en a d'autres qui sont méchants et tout. Non, putain, on est pas content, on veut conquérir le monde et tout. Et donc pour eux, il y a le Special Unit 2. Et ce qui est très intéressant dans la série, c'est que bon, bah, ils se prennent pas trop au sérieux. Les scénaristes, ils ont dit bon, on va pas se la jouer. De toute façon, c'est un matériau qui est un petit peu naze et tout, c'est complètement irréaliste et tout. Mais c'est pas grave, on fonce quand même, on y va. Les manettes, ça donne une série qui a vraiment un charme assez assez unique, quoi, parce que bon, bah, il y a des situations qui sont vraiment super cocasses, et à côté de ça, bon, bah, t'as des personnages très sérieux qui en rajoutent à fond les manettes. C'est peut-être pour ça, il y a peut-être le fait que de temps en temps ils surchargent volontairement le trait, quoi, qui rend cette série très sympathique. C'est rediffusé, on va dire, sur Série Club à partir de mardi prochain, 20h50, spécial Unit 2. Sinon, on a du côté téléfilm, tu vois, la télé s'intéresse aux faits divers ou alors à leur commémoration, eh ben, un petit peu avant le cinéma, hein. On sait que bientôt va sortir L'ennemi public numéro 1, tiré de la vie de Jacques Mesrine. Eh ben, sur TF1, jeudi prochain, téléfilm consacré à Mesrine, La chasse à l'homme, un téléfilm produit par TF1, réalisé par Arnaud Célignac, tout nouveau, hein, de 2006, et interprété pour le rôle titre, enfin pour le rôle de Mesrine, par Serge Riaboukine, également Richard Berry et Alain Reibel, qui joue le rôle du commissaire Broussard. C'est jeudi prochain sur TF1 à partir de 20h50. Et jeudi prochain, pour ceux que ça intéresse pas trop, les histoires de Ennemi Public numéro 1, il y a par contre qui sont férus de bande dessinée, un documentaire inédit sur France 5 sur Gottlieb qui s'appelle Gottlieb trait pour trait. Jeudi prochain, un documentaire de Jacques Pessis de 2006 sur France 5 à partir de 20h40.
Je crois qu'il a déjà été diffusé au printemps dernier.
Enfin, c'est marqué inédit, alors bon, je vais rien dire même.
Ah, il y en a eu plusieurs, allez, on a qu'à dire ça.
Sinon, ouais. Le film de la semaine, j'en ai déjà parlé à chaque fois, c'est un immense bonheur.
Alors, c'est de l'action.
Non.
C'est pas Action Jackson.
Non.
C'est un Ferrara.
Non.
C'est un film d'horreur où des ballerines sont en train de sauter sur... Non.
Non, le film de la semaine, c'est jeudi prochain sur Cinéfix à 21h. T'as Cinéfix, toi, je crois.
Ouais.
Ah, ouais. Ah, peut-être que tu l'as déjà vu.
Attends, c'est
fait.
Barbara Queen 2?
Mais non, Barbarian Queen. Justement, Barbarian Queen 2, Queen, et juste après celui-là, Super Argo contre Diabolicus.
Putain.
De Nostro, de 67, avec Ken Wood, avec Gérard Tichy et Monica Randall. Et en fait, c'est l'histoire d'un super agent secret, ex-catcheur, qui est confronté à un criminel diabolique qui vole de l'uranium afin de prendre le contrôle du monde. Ça, c'est sur Cinéfix, donc jeudi prochain à 21h.
Sabrina, t'es pas trop
Ça date de 1967, Super Argo contre Diabolicus.
Et il prépare la sortie de Super Nachos, là, ou quoi?
Oh my God.
Ah, peut-être.
Nacho Libre.
Nacho Libre.
Et je termine avec un Colombo, encore un. On veut t'y envoyer un, voilà, sur TV Braze, vendredi prochain à 23h20. C'est l'épisode 2 en 1 réalisé en 77 par Bernard Kowalski avec Lola Albright et William Shatner contre Peter Falk, tu vois. Et Shatner également, il a tourné plusieurs de Columbo. À chaque fois, il est méchant et tout. Mais il est méchant, Shatner, mais il est vilain, mais ça fait rien, hein, Columbo.
Ouais, façon, il
le
corrigé,
choque quand
enfin,
même, quoi.
Ouais.
Tu vois, ah ouais, facile. Voilà, c'est tout.
Ouf. C'était le supplément week-end de Radio Éphémère sur 89.1 MHz avec beaucoup de soucis de voix et de pistes aujourd'hui. Je veux dire que c'est piste noire comme émission plus que piste verte, bleue, là c'était un peu difficile. Et heureusement, on est en pull et on va mettre notre cagoule, pas parce que Michael Youn nous le dit, mais parce qu'il fait sérieusement froid. Ceci dit, dire combien ça s'est mal passé et ce que vous avez loupé si vous avez pris en cours d'émission. Thomas peut vous en faire un résumé.
Eh bien, aujourd'hui nous avions de la Sabrina chroniqueuse, on a eu une intro complètement ratée car elle faisait encore dodo. On a eu un ordinateur zombifié, de la BD éducative pour enfants, de la BD éducative mythologique grecque, du film d'animation en couleur, du Dahlia noir, du Colombo et quelques soucis de voix.
Quelques, ouais, pas mal en tout cas. C'était le supplément week-end sur Radio Éphémère. Tout de suite, vous allez retrouver du sport. Et bien après, qu'est-ce qu'il y a sur la poubelle des radios? Sachez qu'à 15h, il y aura Le Potager, qui est une émission de je ne sais pas quoi, suivi à 16h de Scène Transmission, qui est une émission de je ne sais pas quoi. Thomas, c'était quoi les codes couleurs?
Je m'en souviens plus, il y en avait
rose
tellement.
Et cacadois, ouais, d'accord. 17h, Big Bang. 18h, Vie d'ordure, c'est du punk. 19h, On est chez nous, c'est une émission participative. 20h, La C0 Expérience. 21h30, Stay Tuned.
Et ensuite, FMR part en live. Et ça, la couleur, c'est gris.
Et pas que ça, parce qu'il y a encore SKS apparemment qui continue son émission de drum and bass. Mais en tout cas, ça va être vraiment sur un mix. Ça va pouvoir aller vraiment bien, les enfants. Enfin bon, ceci dit, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai oublié de dire, si vous avez manqué le supplément week-end, vous pouvez réécouter toutes les émissions sur le site internet de la radio. Et puis voilà.
Et c'était là combien aujourd'hui?
.radio-fmr.net. 70-71, il me semble.
C'est tout? Je crois qu'on était à 80 déjà.
Je crois, oui, pardon. J'ai sauté une dizaine. Oui, je crois que la 69, oh là là, on avait inversé les...
C'est Alzheimer. En tout cas...